À l'instar du forum de Davos, Jackson Hole est le lieu de rendez-vous annuel des maîtres de l'univers. Chaque été, la réserve fédérale américaine convie dans cette élégante station de ski du Wyoming l'élite des gouverneurs des banques centrales, des grands argentiers, des patrons et des banquiers. En août 2007, le thème dominant du symposium organisé dans cette petite ville de cowboys de l'ouest des États-Unis, tout droit sorti d'un western de John Wayne, était la cause de la crise. Les nuages de la tourmente des subprimes s'accumulaient alors sur la planète financière. La faillite de deux des fonds spéculatifs de Bear Stearns, l'une des deux plus vieilles banques d'affaires de Wall Street, le sauvetage par l'État allemand Dikabei Dutch Industry Bank, le gel de trois fonds par BNP Paribas contenant des avoirs toxiques immobiliers et l'injection concertée de liquidités par les principales banques centrales ont alimenté toutes les conversations de ce rendez-vous convivial à la fois simple et extrêmement codifié, au milieu des ours, des bisons et des élans. Quand vient le tour de l'économiste Paul McKellar de prendre la parole, les happy few présents écoutent d'une oreille distraite l'économiste en chef de PIMCO, le premier fonds obligataire du monde. L'œil embrassant les pics enneigés du grand téton derrière le lac, cet expert à l'allure décontractée confond la tribune et le mont Sinaï.
Le grand danger qui nous guette, ce sont les banquiers de l'ombre. Une soupe de structures, d'entités et d'intermédiaires hors des circuits traditionnels qui sont endettés jusqu'au cou.
À écouter ce spécialiste dont le visage n'est pas sans rappeler celui d'Einstein ou de Mark Twain, les non-banques, en raison de leur taille, alimentent les bulles et aggravent les crises en agissant en meute. Hedge funds, firmes de capital investissement, banques d'affaires, spéculateurs sur les matières premières, chambres de compensation ou sociétés hors bilan sont en train de créer un risque systémique, un peu comme la grenouille de la fable qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Cette économie parallèle mal régulée considère la planète comme un vaste casino où l'on peut miser sur tout et n'importe quoi, en contournant en toute légalité les marchés organisés. Comme on dit en anglais, du sexe sans trop d'imagination. Les professionnels les mieux formés peuvent facilement perdre la boule dans l'ivresse du jeu, de l'appât de bonus mirobolants et de la lutte des égos surdimensionnés. L'effet de la diatribe de Paul McKellar est aussi foudroyant qu'éphémère. Le public qui a l'esprit ailleurs applaudit poliment le Cassandre, à l'éloquence un peu guindée. Personne ce jour-là n'imagine que la grande crise surviendra un an plus tard. Obnubilée par les stars très sollicitées, la presse passe sous silence l'avertissement de cet universitaire inconnu au hit-parade des économistes de renom. PIMCO, supermarché des obligations. Ce sont un peu les ploucs de la profession, comparés aux alchimistes des fusions-acquisitions ou aux gestionnaires de grosses fortunes. Paul McKellar retombe dans l'oubli. Il n'est pas bon d'avoir raison trop tôt. Au début 2011, après 27 ans de bons et loyaux services, l'inventeur du concept de la finance de l'ombre a pris sa retraite de PIMCO. Entre-temps, la crise a coûté l'équivalent d'environ 10% du produit national brut de la planète aux contribuables, obligés de renflouer les banques qui avaient percuté l'iceberg à grande vitesse dans un naufrage hollywoodien digne du Titanic. Les retombées du choc de l'automne 2008, le krach boursier et la récession économique, ont propulsé à la une de l'actualité la sphère financière jusque-là invisible. Partout, l'heure est à une austérité draconienne. Prestations sociales plus frugales, retraites plus minces et plus tardives, réduction du rôle de l'État, pour tenter de régler l'addition salée des indécentes années fric. Pendant ce temps, les milieux financiers qui n'ont rien appris, mais tout compris, ont renoué sans rire ni honte avec leurs mauvaises habitudes. Arrogance, bonus, refus de toute réglementation, chantage au départ dans des lieux plus accueillants et spéculation sur les matières premières créatrices de graves poussées inflationnistes. À l'auteur, Christine Lagarde, ancienne ministre française de l'économie et des finances et aujourd'hui directrice générale du Fonds monétaire international, a dit sans prendre de gants que le capitalisme de l'ombre est aujourd'hui devenu largement hors de loi, ce qui ne l'empêche pas de jouer à armes égales avec l'économie régulée et relativement contrôlée. Le G20 de Washington a décidé que tous les acteurs financiers devaient être régulés. On a bien travaillé jusqu'à présent sur le secteur bancaire et financier, mais il faut qu'on aille voir ce qui se passe à la périphérie. On a un certain nombre de risques qui se trouvaient dans le système qui sont en train de partir à l'extérieur. En vérité, l'ampleur de ce capitalisme-là est sidérante. C'est un monstre. En 2010, les grosses têtes de la Réserve fédérale de New York ont synthétisé graphiquement ce concept. Les panneaux de configuration ont recouvert tout un mur de la salle du conseil d'administration du fameux édifice de granit du 33 Liberty Street. De nos jours, ce système opaque tient en otage non seulement les États, mais aussi les entreprises et les consommateurs. La course à la taille ou l'âpreté au gain facilite le passage de la lumière à l'ombre. Il n'y a plus d'interdit. La boussole morale est devenue intermittente, et dans ce décor de salle des marchés affolés, d'ordinateurs pris de la danse de Saint-Guy et du culte des actionnaires, passe aussi la silhouette légèrement voûtée d'un Bernard Madoff ou celle plus mince d'un Jérôme Kerviel. La finance peut être illustrée par trois cercles, à la fois séparés et imbriqués l'un dans l'autre. Parfois, ils se croisent. Le premier représente le capitalisme de la lumière. Le deuxième, celui de l'ombre. Le troisième est carrément mafieux. Raconté comme un polar à partir d'histoires vraies, ce livre propose une immersion au cœur de cette face cachée du capitalisme qui dirige la planète en toute impunité. Le but est de décrypter l'hyperpuissance de ces acteurs, personnages fascinants, promenant leur vie comme des funambules perchés sur le fil du rasoir. Par le truchement de ces hommes et de ces femmes, en plus grand nombre qu'on ne le pense, hors normes, nous allons essayer de saisir le mépris des règles, l'opacité, les conflits d'intérêts à répétition pour mieux nous interroger sur les risques que ce système parallèle fait peser sur l'économie mondiale. Ces boulimiques, ces irresponsables, ont compris que le fonctionnement des marchés est imparfait et qu'en agissant en coulisses, ils peuvent gagner gros. La maxime ultime de Yuri Orlov, le super vilain marchand d'armes interprété par Nicolas Cage dans le film Lord of War, revient en mémoire. Il y a trois types d'opérations de vente d'armes. Blanche et légale, noire et illégale, et celle que je préfère, la grise et ses circonvolutions multiples. Un empire, Goldman Sachs, banque désormais mythique à laquelle j'ai consacré récemment un livre, illustre jusqu'à la caricature cette coexistence entre deux branches du même système économique. L'établissement a une face éclairée regroupant les activités classiques, fusion-acquisition, transactions boursières, émissions de titres, mais aussi une face cachée où la spéculation la plus effrénée fait appel à des instruments et à des structures souvent invisibles. Combien d'autres grandes maisons fonctionnent selon le même schéma? Combien de grands empires industriels font cohabiter des départements ou des métiers à la transparence variable? Les contours de l'ombre sont difficiles à préciser. En tant que journaliste financier basé successivement à New York, Washington, Bruxelles et Londres, je n'ai cessé de croiser et parfois de rencontrer les principaux protagonistes de cette économie parallèle qui m'a réservé de belles surprises. En couvrant depuis plus de 20 ans les grandes places financières pour le monde, j'ai cherché à explorer les recoins de ce secteur mystérieux pour tenter d'expliquer les rouages de la mondialisation actuelle qui désormais font peur aux gouvernements qui s'en sont longtemps accommodés. À tous les gouvernements? Peut-être pas, on le verra. Aujourd'hui, les ouvrages sur la crise abondent dans toutes les langues. Paradoxalement, les livres sur ce thème de l'économie de l'ombre sont rares. Il y avait donc une lacune à combler. Pourtant, cette filière a été très très exploitée par les romanciers. Thackeray, Trollope, Balzac ou Francis Scott Fitzgerald ont décortiqué les vicissitudes du capitalisme. Le récit saisissant de Truman Capote,
sans froid,
l'un de mes livres favoris, dessine la manière de penser des personnages de notre aventure. Le motif de l'assassinat de toute une famille, le 15 novembre 1929.